Vous écoutez France Culture.
Ce matin, ou plutôt ce soir, nous revoici au Phytobar, je fais des rimes, pour des questions de terroir. Nous sommes ce soir en compagnie de Claude et Lydia Bourguignon. On vous connaît déjà un petit peu à terre et puis on vous connaît bien plus largement maintenant. En France et dans le monde, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Si on remonte un petit peu dans le passé, Claude et Lydia, vous êtes chercheurs l'un et l'autre, microbiologistes. Vous avez travaillé à l'INRA jusqu'en 1989. Et puis en 89, une porte claque, je ne sais pas de quel côté, mais en tout cas, vous voilà dehors. Et un an plus tard, surgit en Bourgogne, votre terre natale, le LAMS, Laboratoire d'analyse microbiologique des sols. Alors, vous dites volontiers que vous êtes des fossiles vivants, puisque de microbiologistes, il n'en existe plus en France. En tout cas, on n'en forme plus depuis 1986. Et que font, ce sera la première question ce soir, des fossiles vivants en Bourgogne, en Champagne, en Alsace, en Val-de-Loire, dans le Jura, le Jurançon, le Côte-du-Rhône, Languedoc-Roussillon, Bordeaux, Château, et même parfois à l'étranger. Quelle relation entre ces recherches étranges et nos terroirs, le vin? Lydia peut-être, Lydia Bourguignon?
Nous sommes effectivement, on travaille pour des vignerons qui sont sensibles aux problèmes de leur sol et on va essayer de les aider pour qu'ils amènent une meilleure qualité à leur vin. Et comme c'est lié à la vie de leur sol et comme nous sommes spécialistes de ça, donc on va les aider pour ça. C'est pour ça que on travaille en Europe, en France, en Europe et à l'étranger.
Alors, lié à la qualité des sols, on a plutôt tendance à penser que c'est lié à la qualité des cépages, du climat.
L'identité d'un vin est liée fortement au sol. La preuve, la meilleure preuve, je pense, c'est la Bourgogne, puisque en Bourgogne, vous n'avez qu'un seul cépage hein, pour le rouge, le pinot noir, et qu'un seul pour le blanc, le chardonnay. Et si vous goûtez en bouche un Gevrey Chambertin et par exemple un Latache ou un Richebourg, vous verrez que c'est extrêmement différent. Et pourtant, c'est le même cépage, le même porte-greffe, la même région. C'est le sol qui fait cette identité.
Le même climat.
Même climat.
Le même terroir.
Même terroir. Enfin, non, ah justement. Non. Ah. Pas même terroir. Non.
C'était une question piège pour voir si vous suivez. Alors, pourquoi pas le même terroir?
Parce qu'en fait, on a fait ça, c'est un peu la spécialité des recherches que nous avons faites. La Bourgogne a été effectivement notre terre de travail, un seul cépage. Et on s'est demandé pourquoi, en fait, les bénédictins, très tôt, avaient délimité ces parcelles. Puisqu'en Bourgogne, on a des parcelles qui font à peine un hectare et qui jouxtent une autre parcelle. Et jamais un vigneron ne mélangerait les deux vins. Donc on s'est dit, il y a certainement quelque chose. Donc, on a regardé dans les études et beaucoup de gens disaient il n'y a pas eu vraiment de corrélation entre l'altitude, la température, la quantité d'argile. On s'est dit qu'il doit y avoir quand même quelque chose de plus subtil.
Ça, c'est à l'époque où vous étiez encore à l'INRA?
Non, c'est dans notre laboratoire.
Le LAMS.
Le LAMS. Et en fait, les argiles, on va rentrer un petit peu dans les détails. Une argile, c'est comme un livre, en fait. Donc, il y a plein de feuillets. Et dans ces feuillets, les éléments, la potasse, le sodium, le calcium sont dedans. Et il y a des argiles qui n'ont pas beaucoup de pages dans le livre, puis il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Et donc, ça s'appelle la surface spécifique, la surface interne spécifique des argiles. Et ça peut aller de 40, avec 1 mg, on peut couvrir 40 mètres carrés. Et avec 1 mg, on peut aller jusqu'à 800 mètres carrés. Donc, imaginez un papier avec du gros papier, quoi, type papier de dessin, et puis le papier Bible. Et l'épaisseur du livre sera la même, mais en fait, dans un cas, il y aura 800 pages, et dans l'autre, vous allez avoir 10 pages. Mais en fait, dans ces feuillets, les éléments sont dedans, et plus vous avez de feuillets, plus vous allez avoir d'éléments. Et c'est ces éléments, enfin, nous, on a montré que, en fait, plus vous avez de feuillets, plus vous avez de surface interne, plus les bourguignons ont mis des rouges.
Pas vous, mais les bourguignons.
les viticulteurs bourguignons ont mis du rouge. Et quand les argiles étaient plus faibles, ils ont mis du blanc. Donc, à la suite de ça, on a essayé de sortir de notre Bourgogne, puisque la critique aurait été, oui, mais alors que la Bourgogne, il n'y a que du Pinot pour le rouge et du Chardonnay. Et on a débordé dans les autres régions de viticole et on retrouve toujours cela.
Parce qu'une terre à vin, c'est toujours une terre argileuse ?
Ah non.
Ah ah. Alors ?
Non, il y a des terres sableuses, il y a des terres argileuses. Mais disons que l'argile, c'est... Un sable ne nourrit pas une plante, un limon ne nourrit pas une plante. C'est dans l'argile que les éléments sont stockés. C'est la seule forme minérale qui est capable de nourrir une plante. Donc c'est celle qui nous intéresse dans la mesure où on recherche un facteur explicatif de la notion de terroir.
Donc, ça signifie que, quel que soit le type de sol, on aura toujours un minimum d'argile.
Ah oui, s'il n'y avait pas d'argile du tout, ce ne serait pas un terroir. Vous ne pourriez pas nourrir des plantes. Hein, si vous prenez...
Ça, c'est vrai pour tout type de plantes.
Oui, pour tout type
évidemment.
De plantes. Mais dans les sables purs, vous avez ici les landes de Sologne, par exemple, hein, où vous êtes sur des sables avec en plus une argile très, très pauvre, la kaolinite en faible quantité. Il n'y a que de la bruyère qui pousse, il n'y a rien d'autre. On fait un peu de vin dans la Sologne, mais pas dans la vraie Sologne pouilleuse.
Alors ensuite, on peut compliquer les choses, puisque selon qu'on sera sur du granit ou sur du schiste ou je ne sais pas, est-ce que ça crée là encore des différences ou bien est-ce que c'est uniquement ce feuilletage de l'argile ?
Non, si vous êtes bien sûr que la géologie, mais là quand vous parlez granit, schiste, en fait on est dans le
roche.
Caillou, dans la roche. Quoique en étude, on apprend que les argiles sont en fait des roches sédimentaires. Elles sont assimilées à de la roche puisque les plantes vont se nourrir dedans. Mais c'est vrai que si vous êtes sur des schistes, on va avoir, on va avoir des sols qui seront soit plus acides, ça va donner à ce moment-là l'acidité ou la basicité du sol. Et ça aussi, ça compte pour les goûts des vins.
Alors justement, parce que là, on a l'impression d'être rentré, d'avoir plongé directement jusqu'à la roche. Mais si on remonte dans la plante, qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui fait que la composition du sol peut influer sur le goût d'un vin ?
La plante, enfin, il faut savoir qu'une plante ne peut pas se nourrir dans le sol, va se nourrir grâce aux microbes, c'est exactement comme ce qui se passe dans notre intestin. C'est les microbes qui vont prendre les éléments du caillou et les rendre assimilables par la plante. Or, chaque roche a une composition donnée, donc chaque roche va donner à la plante un milieu nutritif bien particulier. Alors, il faut savoir que les parfums que vous goûtez dans les vins, dans n'importe quelle plante d'ailleurs, ces parfums sont des molécules carbonées, formées normalement uniquement à partir de la transformation des sucres de la photosynthèse. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, les Américains disent « soil for wine is just bullshit », le sol pour le vin c'est de la merde, ça sert à rien puisque tous les composés parfumés sont carbonés. Mais ce que les gens qui disent ça ne savent pas, c'est que ces composés carbonés sont synthétisés par des molécules qui existent dans tous les êtres vivants, qui s'appellent les enzymes, qui sont les protéines qui font les synthèses. Or toutes les enzymes sont des protéines à cofacteurs métalliques. Vous avez les enzymes à molybdène, à cobalt, à manganèse, etc. Et tous ces éléments-là sont rendus assimilables par les microbes. Donc en fonction de la roche, vous aurez plus, par exemple si on prend le morgon, c'est un granit à manganèse, on retrouve le manganèse dans le vin. Hein, et c'est ce qui, d'ailleurs les vignerons disent, il morgonne, mon vin morgonne. Hein, c'est lié à... Alors on connaît encore très mal la chaîne d'enzymes qui synthétise les différents parfums.
On la connaît mal parce qu'on ne l'a pas étudiée ?
On ne l'a pas étudiée, oui.
Parce qu'on ne s'y intéresse pas.
Non, les physiologistes considèrent qu'il n'y a que le cépage qui compte, ils se fichent du sol. Donc
Vous dites d'un côté, et c'est ça qui me paraît le plus extraordinaire, vous parlez d'un côté de l'argile, de l'autre côté des microbes, et en fait c'est une sorte d'alchimie qui se passe entre les deux et qui est véritablement à l'origine de la culture des plantes, enfin, du fait que les plantes poussent, vivent...
Oui, ben là, on va rentrer un peu dans la complexité. C'est vrai que...
On y est déjà.
Oui, on y est déjà. C'est vrai qu'il y a une relation, mais en fait, un sol, pour les gens, il faut qu'ils comprennent qu'un sol, en fait, c'est extrêmement structuré. C'est comme notre peau. On a le dessus, l'épiderme, et donc on va avoir la zone épigée au-dessus. Et en dessous, vraiment en profondeur, on a l'endoderme, et pour le sol, on a l'endogé. Et en fait, si il faut que le sol, on travaille. Quand un sol est vivant, on va avoir de la faune et des microbes en surface. On va avoir de la faune et des microbes au fond. Ces faunes vont bouger à l'intérieur, vont aérer le sol.
Vous faites un signe comme s'il y avait des ascenseurs. Ça monte, ça descend.
Exactement. Parce qu'en fait, au-dessus, la faune épigée va créer une aération. En bas, on a une faune aussi qui crée une aération. Au milieu, pour simplifier, on a les vers de terre que tout le monde connaît, qui brassent, qui montent et qui descendent, qui brassent le sol. Ça va faire que le sol va être aéré. Cette aération va permettre aux microbes de se multiplier. Et ces microbes vont permettre de solubiliser les éléments. Et la plante va se nourrir avec ces éléments. Donc, en fait, c'est extrêmement compliqué. Un sol, c'est extrêmement structuré. Il ne faut pas croire que... Et pour beaucoup de gens, donc c'est peut-être pour ça qu'on nous appelle, parce qu'à l'heure actuelle, les sols ne sont plus vivants, ne sont plus dans cet équilibre. Et on essaye de le remettre. On essaye de remettre, entre guillemets, je dirais, les horizons, quoi, de ramener les faunes, de ramener pour que les microbes se remettent en mouvement et que la plante se nourrisse des éléments du sol et non pas des fertilisants.
Vous dites des choses assez frappantes et assez terribles. Vous dites en effet que les sols sont en train de mourir, oui. Qu'ils auraient perdu jusqu'à 90%
de leur activité biologique. Oui. En moyenne, sur l'Europe, États-Unis, oui, enfin sur les pays, disons, à agriculture intensive, on a perdu 90% de l'activité biologique de nos sols. C'est toute la pyramide biologique qui est en train de mourir.
Là. En combien de temps?
On a fait 150 ans de pesticides, de défonçage avec des machines puissantes. Et ce qui est intéressant, c'est que nos collègues du muséum observent exactement la même chose. Disparition de 90% des insectes, 90% des amphibiens, 90% des reptiles, 90% des oiseaux. Comme le sol est à la base de toute la pyramide vivante, la mort des sols est en train d'effondrer. Le problème, c'est que les gens s'en fichent parce qu'il n'y a plus d'oiseaux, mais comme il reste des corbeaux, il y a toujours des espèces qui s'adaptent à un système effondré. Comme il reste des corbeaux et des étourneaux et des mouettes, ils sont contents. Mais toutes les fauvettes disparaissent. C'est un carnage. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est un véritable carnage et personne ne le regarde. Nous, on le voit dans notre microscope quotidiennement, c'est plus de vers de terre. Il n'y a plus rien. Enfin, les sols sont morts. D'où l'érosion. C'est pour ça que vous voyez de l'érosion partout. Toutes les rivières sont pleines de boue. Et les gens ne trouvent ça normal. Ils ont fini par s'habituer que chaque fois qu'il pleuve, nos rivières sont pleines de boue, alors que nos rivières, autrefois, étaient transparentes, il y avait des poissons dedans. Mais non, ils ne sont pas choqués par ce monde qui meurt.
En quoi est-ce que c'est la vie, ou plus exactement l'agonie du sol, qui est le socle de cet effondrement généralisé?
Ben, si vous n'avez plus ce qu'on vous a dit, là, cet équilibre, cette structure, en fait, le sol, bon, par ses mécanismes, il va y avoir la matière organique d'un côté, les argiles de l'autre. Et en fait, grâce à un atome, le calcium, comme s'il avait deux bras, il va prendre la matière organique d'un côté, l'argile de l'autre, et va faire le complexe argilo-humique qu'est la Terre. À partir du moment où vous n'avez plus de vie, il n'y a plus d'éléments, la matière organique, en plus, on a de moins en moins de matière organique, les argiles ne vont pas être tenues, et donc elles vont partir, dès qu'il va pleuvoir, elles vont partir, on va les retrouver dans les rivières et dans la mer. Donc en fait, c'est la destruction, quoi. C'est la finalité. Quand la mort d'un sol, ça commence par la mort de la faune, ce que je vous disais. Après, quand il n'y a plus de faune, il n'y a plus d'aération, donc les éléments vont passer dans les nappes phréatiques. Et quand il n'y a plus ça, et ben c'est l'argile qui s'en va et c'est l'érosion. Et l'érosion, c'est vraiment la mort des sols, c'est la fin.
C'est la fin, c'est juste avant le désert.
Oui, c'est juste avant le désert.
Nous fabriquons 10 millions d'hectares de désert chaque année dans le monde. À ça, vous rajoutez 5 millions d'hectares qui terminent sous le béton. Il y a donc 15 millions d'hectares de sol qui sont définitivement retirés de leur activité vivante sur la planète. Et alors, une population qui augmente de 90 millions d'habitants chaque année.
Mais si ce n'est que, comme vous le disiez, Claude Bourguignon, on ne le voit pas.
Non, ça ne se voit pas.
Et ça peut rester invisible comme ça encore longtemps? Par exemple, si on revient sur le vin, qui était notre festive question de départ, et on voit que la fête commence à battre un peu de l'aile. Mais si on reprend l'exemple des vins, est-ce que la plupart des vignobles sont cultivés sur de ces terres que vous dites mortes, ou bien est-ce qu'il y a encore un frémissement de vie?
Beaucoup de vignes sont sur des terres mortes, parce qu'on a utilisé... Beaucoup de, ben, d'herbicides pour tuer, puisque les gens veulent plus. Il y a une époque où on travaillait, après on a arrêté de travailler pour enlever les mauvaises herbes. Donc en fait, ils ont utilisé des herbicides, on utilise des machines qui compactent de plus en plus les sols. Donc si vous tassez, ben, il n'y a plus d'air, donc il n'y a plus de faune. Et quand même, nous, dans ce que l'on voit, ben, il y a quand même, je dirais, 70-80% des sols en France, de vignes, ou même à l'étranger, qui sont pas vraiment vivants, quoi.
Donc les herbicides, les pesticides, avant ça, il y a les engrais, peut-être ?
Les engrais chimiques. Oui, donc la vigne, c'est 3% de la surface agricole utile en Europe, et elle consomme 30% des pesticides. Hein, c'est-à-dire que la viticulture et l'arboriculture polluent 10 fois plus que la céréaliculture. C'est l'agriculture la plus polluante qui existe. Hein. Donc le résultat, bah, les sols meurent, et nous on le voit. Hein. Pour vous donner une idée, l'enracinement moyen de la vigne en Europe est passé. À la fin du 19e, les études de l'époque montraient que la vigne descendait à plus de 3,50 m de fond. Maintenant on est à moins de 50 cm. Et les gens vous parlent encore de vin de terroir.
Moi, ça à m'amuse, cause du compactage.
À cause de la compaction et de la mort des sols, il n'y a plus d'air. Donc les racines meurent. Et vous n'avez plus que des racines en surface, il n'y a plus d'oxygène dans les sols.
Alors ça pose un problème supplémentaire que vous évoquez. C'est le fait qu'un cep de vigne, pour être véritablement dans le plein épanouissement de ce qu'il peut donner, il doit être assez âgé, en fait.
Ah oui.
Oui, oui. Mais le problème, c'est que... Quand on lit les anciens livres, on dit que le vin, il faut au moins entre 30 et 40 ans. Hein. Quand on lit Don Denis, qui est une vieille thèse qui a été publiée dernièrement, en fait, ils disent qu'il faut 40 ans. Maintenant, à 25 ans, on arrache les vignes. Alors, donc, vous cherchez l'erreur. Hein. C'est sûr que...
Avant le greffage, avant le phylloxéra, une vigne, ça vivait 4 siècles. Après, on a le phylloxéra détruit le vignoble européen, on a greffé, on met sur des porte-greffes. Sur porte-greffe, une vigne tient 100 ans. Et maintenant, c'est 25 ans. C'est-à-dire qu'on arrache les vignes avant qu'elles commencent à faire des grands vins.
Alors, le phylloxéra, puisque vous en parlez, parlons-en. J'ai lu quelque part que vous seriez des amis du phylloxéra.
On n'est pas des amis, mais personne ne travaille sur le phylloxéra. Depuis toujours, il y a même eu une prime or, je ne sais plus de combien, si quelqu'un trouvait un moyen de lutter contre le phylloxéra. En fait, bon, ça c'est notre interprétation. Les pépiniéristes n'ont pas vraiment intérêt à ce qu'on travaille sur le phylloxéra, parce que c'est la mort de leur métier. Donc on voudrait, parce que c'est le talon d'Achille de la viticulture française, hein, puisqu'en fait... La vigne est greffée et elle est greffée le porte-greffe aime les sols acides et notre vigne, Vitis vinifera, aime nos sols calcaires.
Alors attendez, Lydia Bourguignon, on va revenir en arrière. Oui, parce que là, on a pris les choses un petit peu
rapidement, excusez-moi.
Oui. Donc, d'abord le phylloxéra, quand et comment est-il arrivé ? Ça, c'est déjà première surprise.
Personne ne sait vraiment quand est-ce qu'il est arrivé. Il y a plein de légendes qui disent que c'était le baron Rothschild qui a offert un pied de vigne à ses clients, qui était un pied américain. Il y en a d'autres qui disent que c'est par les planches. On ne sait pas du tout quand est-ce qu'il est arrivé.
Par les planches ?
Par des planches. Hein,
oui, par des planches qui auraient servi dans des bateaux. Et
voilà. Enfin, en tout cas, il est arrivé d'Amérique.
Voilà, d'Amérique.
C'est un insecte
qui attaque, qui pique les racines des vignes américaines.
Il a touché surtout le sud de le Languedoc. C'est la première zone qui a été touchée. Donc, il y a des études qui montrent que c'était quand même... Le Languedoc était déjà beaucoup plus industrialisé, vignes de type industrialisé. Donc, peut-être des vignes qui étaient déjà fatiguées. Et en fait, bon, ça s'est abattu. Après, c'est remonté. Et c'est vrai que ça a couvert, ça a détruit tout le vignoble européen.
Parce que si on fait un état des lieux des vignes telles qu'elles étaient à l'époque, Vinis vitifera, comme vous le disiez, c'est ce qu'on appelle des vignes franches de pied, c'est-à-dire qui ne sont pas greffées.
Pas greffées. Donc, naturellement peu vigoureuses. La greffe provoque ce qu'on appelle la vigueur hybride. Donc, dès que vous greffez, vous augmentez la vigueur. Le rendement en France, dans le vignoble français, va doubler après le phylloxéra. Et là, plus vous augmentez la quantité, plus vous perdez de qualité. Hein, ça, c'est une règle. Hein, le grand agronome Gressan avait écrit à la fin du 19e, les engrais ont définitivement prouvé leur incapacité de faire des bonnes plantes, car ils augmentent le feuillage, mais font disparaître le goût des plantes. Hein. Nous savions, dès la fin du 19e, que les engrais rendent les aliments totalement insipides. insipide.
Systématiquement.
Systématiquement. Les tomates hors sol n'ont strictement aucun goût. Vous ne pouvez pas avoir du goût avec du rendement. C'est un choix dans la vie. C'est où vous avez de la qualité, où vous avez de la quantité. Hélas, on ne peut pas avoir les deux. Donc, c'est des choix. Et nous travaillons avec des vignerons qui veulent faire des vins qui ont une identité. Et là, à l'heure actuelle, on arrive à des situations amusantes où même des vignerons, dans des dégustations, ne reconnaissent plus leur vin. Tellement ils ont perdu leur identité. Mmh. Évidemment, ils ont des enracinements sur 20 cm de hauteur, ils ne peuvent pas reconnaître leur vin.
Et des vignes qui ont 25 ans d'âge, c'est-à-dire qui sont des gamines. Et enfin, c'est-à-dire que quand on vous écoute, vous dressez un tableau finalement extrêmement noir de la situation. Donc, dans ce tableau très noir, comment est-ce que les viticulteurs, les vignerons français se débattent pour continuer à avoir ce qu'on appelle une identité, les grands vins français le terroir ou les terroirs.
En fait, pour revenir sur ce que vous disiez au début, les vignerons ne sont pas totalement responsables de ça. Hein. C'est qu'après la guerre, en fait...
Moi, je n'ai pas dit que vous étiez responsable.
Non, mais enfin, dans l'ensemble, les gens disent des fois oui, mais après la guerre, en fait, vu l'industrialisation et certaines choses, même pendant la guerre de 14 et de 40, c'est vrai qu'on a demandé énormément de production de vin, parce qu'en fait, les gens, pour travailler, pour aller à la guerre ou pour être dans les mines, les gens buvaient du vin. Donc, c'est vrai qu'en France, on a demandé une production de vin, on a demandé aux vignerons de faire du rendement, et pour cela, il fallait trouver des porte-greffes, là, puisque porte-greffes américains, mais qu'on a croisés, et qui étaient des porte-greffes productifs. Donc, la viticulture a été, pendant longtemps, on a proposé aux viticulteurs des porte-greffes productifs, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément sur la qualité, mais qui étaient sur la quantité.
Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal, Lydia Bourguignon, puisque vous dites à la fois qu'on a importé des porte-greffes beaucoup plus productifs, mais dans le même temps, vous disiez tout à l'heure, et je vous ai arrêté en disant stop, n'allez pas trop vite, que les porte-greffes américains aiment les sols acides, alors qu'ici, on est en sol calcaire. Comment est-ce qu'on peut... pourquoi est-ce qu'ils sont productifs puisqu'ils n'aiment pas nos sols?
Mais Claude venait de vous dire, quand on greffe, c'est l'hybridation, c'est ça. Dès que vous faites une greffe, tous les fruits sont faits comme ça. Si, pour avoir une production de pommes, on greffe pour avoir tous les arbres fruitiers, toute l'arboriculture est greffée. Le greffage, le produit, c'est utilisé pour ça. En fait, ça donne de la quantité.
Ça donne une quantité, mais en même temps, ça force d'une certaine manière l'arbre et le fruit à être dans des conditions qui ne sont pas exactement celles qu'il aurait pu souhaiter.
Et donc, mourir plus jeune.
Aussi.
Bah oui, puisque vous le faites produire de trop. Donc il va mourir plus jeune. Une plante ou un animal, une vache, elle est capable de faire 40 000 litres de lait dans sa vie. Vous pouvez la piquer à la somatotropine, aux hormones, comme on fait maintenant dans les élevages industriels. Ça finit par les rendre folles, mais ça fait produire beaucoup. Et vous pouvez lui faire produire plus de 10 000 litres de lait par an, mais elle fera ça 4 ans. Puis après, elle va mourir, c'est l'abattoir. Ou vous la laissez tranquille faire ses veaux comme autrefois, et pendant 10, 12, 15 ans, elle va vous faire du lait, mais à 3 500, 4 000 litres de lait. Un organisme, il produit une certaine quantité dans sa vie. Donc une vigne, c'est pareil, elle fait une certaine production. Vous pouvez lui faire faire en 100 ans ou en 25 ans.
Qu'est-ce qui fait que les vins français ont continué à être si réputés si longtemps? Ce qui est moins vrai depuis quelques années, mais tout de même pendant très longtemps. Or, quand on vous écoute, on se demande ce qui reste.
Ils sont très menacés en ce moment.
Oui, mais parce que les Français, très tôt, en fait, je pense, on dit que c'est le berceau de la vigne, les Français, très tôt, et certainement initiés au démarrage par la Bourgogne, hein, puisque c'est là, c'est les cisterciens qui, les premiers, ont vraiment, bon, les bénédictins, je disais, ont délimité les parcelles. Donc, ça n'a quasiment pas changé. Quand on lit les écrits des bénédictins, il y a quasiment, à Vaune-Romané, on retrouve pratiquement les mêmes parcelles que maintenant. Par contre, c'est les cisterciens qui ont vraiment travaillé pour faire du vin. Parce qu'il y a la culture, mais après, il y a
le vigneron, quoi,
la vinification.
Ouais. Et, ce que vous appelez des vins spirituels.
Ce qu'on peut appeler des vins spirituels. Et c'est vrai qu'il y a un savoir. La France a très tôt à chercher, à travailler énormément comment faire du vin, l'œnologie. Et on est de ce côté-là, d'ailleurs... nous, on voyage beaucoup dans des pays loin européens, mais très loin de l'Europe. Et la plupart du temps, les œnologues sont français. Donc, c'est des Français qui vont faire le vin ou qui apprennent. Donc, c'est vraiment
français. Il y a une forme d'érudition, de savoir raffiné.
Et puis, il y a le terroir. La Vitis vinifera est une plante calcaire. Et la France est le pays du monde qui a le plus de calcaire. 55% de notre géologie est calcaire. Pour vous donner une idée, les USA, 3% seulement de calcaire. C'est pour ça que pour les, quand on veut les agacer un peu, les Américains, on leur dit de toute façon, on ne ferait jamais de grand-mère, ils n'avaient pas de calcaire. Le calcavitis vinifera est une plante calcicole. Et donc, on a quand même le calcaire. Et en plus, nous avons les meilleurs calcaires pour faire le vin, qui sont les calcaires du Jurassique. Ce que possèdent très peu de pays.
En Europe aussi,
c'est nous qui avons la plus grande quantité de calcaire du Jurassique en Europe. Une grosse partie de l'Europe a du calcaire plutôt du tertiaire. Et qui sont loin d'être aussi fracturés, aussi fissurés, ne permettant pas aux racines de descendre aussi profond, puisque c'est en France qu'on a le record d'enracinement de vignes, 75 mètres de profondeur. Hein, donc nous avons vraiment des contacts racines-terroirs qui sont impressionnantes. Et la France est fille aînée de l'Église, hein, c'est donc elle qui produit le sang du Christ. Tout ça, c'est des vieilles dimensions spirituelles.
Non, mais tout à fait, j'allais justement vous dire que ce qui est assez frappant quand on vous écoute, c'est qu'il y a véritablement à la fois ces conditions qui ont l'air quand même assez exceptionnelles et toute cette culture du vin au sens culturel et non pas culturel, là.
Culturel, c'est en train un vrai d'évoquer. Patrimoine.
Oui, oui.
Et je trouve c'est assez dramatique la façon dont, là, en ce moment, la France, nos politiques, attaquent ce patrimoine.
C'est nos politiques, maintenant, attendez, alors là, bah vous si, allez, parce une que... fois de plus, vous bah galopez non, en bah tête.
Oui, parce qu'en fait, bon, là, mais cette loi est terrible sur cette assimilation du vin, de l'alcoolisme et tout, je veux dire, on ne défend absolument pas ce patrimoine. C'est une vraie attaque, on attaque beaucoup plus le vin qu'on attaque les alcools et on ne devrait pas. C'est une culture. C'est pas inciter les gens à boire et à être alcoolique et à être sous tous les soirs. Il y a peu de jeunes qui boivent du vin. On dit, bon, on va pas rentrer. Mais en fait, on va dans d'autres pays, l'Italie, l'Espagne. C'est considéré comme un patrimoine. Et il y a une vraie défense de cette culture. Et en France, les vignerons ne sont pas soutenus par rapport à ça. Et on attaque une culture. C'est culturel, le vin.
C'est un peu curieux de vous entendre dire ça, parce qu'on a quand même, en général, le sentiment que les vignerons sont l'aristocratie de l'agriculture.
Oui, mais ils sont très mal défendus. Nous avons le deuxième plus grand lobby d'alcool industriel du monde, qui sait faire un lobbying auprès des hommes politiques. Et vous pouvez remarquer que dans les publicités contre l'alcool, on ne voit que des verres de vin. Vous ne voyez jamais d'alcool industriel, jamais de boisson anisée, jamais de whisky, jamais de vodka. Donc il y a une attaque qui est voulue spécifiquement contre le vin, parce que ce sont des artisans indépendants, alors que les grands lobbies, vous savez, vous faites beaucoup plus de bénéfices avec de l'alcool industriel, c'est fait avec des céréales. Un homme peut cultiver 500 hectares de céréales. Un homme ne peut pas cultiver 500 hectares de vin. C'est impossible. Le vin demande une taille, une occupation, c'est artisanal. Donc c'est beaucoup plus facile d'attaquer des petits artisans isolés que de toucher à des grands lobbies qui payent les campagnes électorales, etc. Donc, on n'attaque que le vin, on n'attaque jamais l'alcool industriel.
Non, et pour en revenir, la publicité, vous voyez une publicité pour Ricard, ils disent boire avec modération. Un vigneron, lui, personnellement, en son nom, n'a pas le droit de faire de la publicité. Il ne peut pas écrire son nom. C'est la région Bourgogne qui va faire de la publicité pour son vin. Mais un vigneron avec son nom ne peut pas. Alors que, vous voyez, bon, on peut dire que c'est grave.
Bon, mais vous êtes là ce soir pour aider à leur redonner leur lettre de noblesse.
Oui.
Et le reste du temps, quand vous n'êtes pas au phytobar, vous êtes en fait avec eux dehors. Bon, pas uniquement avec eux, après on va élargir. Mais tout de même, si on reste maintenant dans ce travail que vous faites auprès des viticulteurs et des vignerons, qu'est-ce qu'ils vous demandent exactement et qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? À part faire des constats assez terribles, comme on vient de vous entendre les faire, quelle thérapie possible, puisqu'on a l'impression que la situation est quand même très, très grave, là.
Oui, mais la nature, elle est bonne fille, hein, quand on s'en occupe. Hein, quand on s'en occupe, quand on la respecte, quand on essaye de... En général, bon, sauf si c'est vraiment... mais en quelques années, on arrive... Les vignerons avec qui on travaille... voit des résultats au niveau de la dégustation, de la tenue des vins. Donc, en fait, bon, c'est absolument pas irréversible.
Mais de quelle manière, alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre la mort des sols, contre le fait que les cépages actuels sont des porte-greffes
Justement, on va faire changer les porte-greffes. Bien entendu. Oui,
ça
bien
dépend
entendu.
Du
C'est-à-dire qu'il reste. Est-ce qu'on a. Alors, est-ce que. Puisque très souvent, c'est une question qui revient dans Terre à Terre, la perte de la biodiversité, la perte des semences traditionnelles, etc. Est-ce qu'on a conservé des pieds d'origine qu'on pourrait replanter.
Non, mais il existe des porte-greffes très peu vigoureux, très qualitatifs, qui avaient été repérés d'ailleurs dès la fin du 19e, éliminés après parce que justement pas assez productifs.
Mais là, vous restez dans le porte-greffe.
Oui, là, je prends le porte-greffe, par exemple, mais qui existe toujours. Bon, c'est très compliqué d'obtenir des pépiniéristes qui nous en passent parce qu'évidemment, comme ils ne sont pas vigoureux, la vigne ne démarre pas. Vous savez, elle ne fait pas tout de suite des feuillages dès la première année, donc ils ont peur que le client soit déçu. Donc, c'est en fait nous qui disons, qui
nous adressons direct.
Voilà, je veux celui-là, le petit, là, pas gros, et puis qui fait une vigne pas belle pendant 3-4 ans. Parce que c'est ça qui me fera un grand vin dans 30 ans. Mais là, il faut qu'il y ait un vrai accord entre que le pépinier soit d'accord et puis que le client s'attende à ce que la vigne ne soit pas, fasse pas du feuillage, mais qu'elle commence d'abord par faire des racines, parce que c'est ça qui est important.
Mais en tout cas, on ne retourne pas au franc de pied.
Non, parce que là, pour l'instant, il y a quelques vignerons qui font des expériences, mais il faut y aller vraiment sur la pointe des pieds, parce que le phylloxéra est encore extrêmement virulent. Donc en fait, si un vigneron veut revenir au franc de pied, on a des expériences un peu partout, mais ça demande. Alors déjà, quand on leur dit qu'il faut retravailler leur sol, qu'il faut mettre du compost et tout, des fois c'est déjà difficile. Et si vous remettez du franc de pied, alors là, il faut vraiment être comme avec un bébé, il ne faut pas le lâcher. Quoi.
Jour et nuit.
Quasiment.
Mais par exemple, avec Lydia, nous avons créé le Cru des Doges à Venise, donc sur l'île de Venise, qui avait disparu à la fin du 18e. Et là, on a pu planter franc de pied parce qu'on avait étudié le sol. C'est un sol où on sait que le phylloxéra ne peut pas se développer dedans. Et ça fait un vin, les gens n'en reviennent pas, quoi, parce que les vins italiens n'ont pas une très, très bonne réputation. Mais là, vous retrouvez cette fraîcheur du franc de pied qui est tout à fait étonnante. Et les Vénitiens sont ravis de revoir à nouveau ce vin qui avait disparu. Donc on peut recréer des choses qui ont disparu. Ouais.
Donc ça, on peut recréer. Restons maintenant sur le porte-greffe. Vous avez aussi beaucoup parlé des pratiques culturales. Donc là, il faut revenir à des pratiques culturales anciennes, ou bien est-ce que, de même que l'agriculture biologique, ça n'est pas exactement l'agriculture d'avant, mais une version contemporaine de ce qu'était l'agriculture traditionnelle. Est-ce qu'il y a une viticulture ultra-contemporaine? Là, je vous tends une perche.
Beaucoup de gens nous disent si on retravaille, si c'est un retour en arrière. Non, de toute façon, on ne peut pas non plus supprimer complètement le modernisme. Nous, déjà, la première chose, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'il faut faire un constat. Donc, la première chose qu'on va faire, si un vigneron nous appelle, c'est un constat. C'est regarder qu'est-ce qu'on peut lui apporter. Donc, en fonction...
Une sorte de diagnostic.
Déjà, un diagnostic. Alors, bon, il y a... En Bourgogne, je vais revenir peut-être par chauvinisme, mais c'est vrai que il y a des choses qui ont déjà été très, très bien... on connaît très bien les parcelles. Il y a des endroits où les vignerons ne connaissent pas. Donc, déjà, on va faire un diagnostic de leur dire... Bon, tout n'est pas forcément bon, parce que, en fait, les seules classifications, c'est la Bourgogne et le Bordeaux. Pratiquement toutes les autres régions viticoles de France n'ont pas de classement. Donc un vigneron, toutes les parcelles n'ont pas forcément la même qualité. Donc déjà, on va classer...
Alors vous allez travailler parcelle par parcelle.
Voilà. On va déjà classer leur sol.
Comme dire, des cisterciens.
Voilà. On va leur dire, bon, ça vraiment, c'est top. Puis ça, c'est moins top. Donc, celui qui est moins top, vous allez moins, quelque part, vous en occuper. Vous allez essayer de faire une viticulture qui va être en adéquation avec le prix que vous allez pouvoir vendre. Par contre, ces parcelles qui sont vraiment top, où vous allez pouvoir faire un vin, le monter très plus haut. Donc là, vous allez avoir beaucoup plus d'attention.
Mais de nouveau, comment est-ce que vous arrivez à repérer les très bonnes parcelles, puisque vous dites qu'elles sont extrêmement dégradées, que les sols sont extrêmement dégradés.
Il y a une mémoire.
Il y a une mémoire. Les argiles, elles ne sont pas toutes parties, heureusement. Les argiles sont présentes. Dans notre classification, nous utilisons énormément de critères, l'altitude, l'exposition, le type d'argile, etc. Donc il y a tout un ensemble de critères qui nous permettent de dire, voilà, là, on est au niveau, je dirais, équivalent grand cru pour la Bourgogne. Ça, c'est plutôt équivalent premier cru, ça, c'est plutôt village, et puis ça, c'est vin ordinaire. Parce qu'à l'heure actuelle, comme les gens dans les zones qui sont non classées, vous voyez des gens qui dépensent beaucoup d'énergie sur des sols sans grand intérêt. Alors, ils font de la haute densité, ça leur coûte très cher. Alors que le sol ne fera jamais un grand vin, c'est un sol pour faire du vin de table. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, c'est que le sol n'est pas politiquement correct. C'est comme ça. Il y a des sols qui font toujours du vin de table, il y a des sols qui font des merveilles. Donc, c'est autant servir en premier au mieux ce qui est le plus grand, et puis on plus tranquille. Avec le plus simple, sans l'abandonner.
Alors ensuite, il faut ramener un peu de vie dans tout ça. Comment est-ce qu'on s'y prend?
Ben, On va conseiller le compost, hein, pour beaucoup, dans beaucoup de cas, c'est-à-dire que bon, refaire de la matière organique. Donc soit le vigneron, s'il peut, s'il a la possibilité, il va le faire. Donc on va l'aider à faire un compost, parce que pour beaucoup de gens, le compost, on met un peu de fumier de vache, de chevaux, un peu de paille, un peu. Mais un compost, c'est une fermentation. Donc c'est aussi compliqué qu'un vin. Un vin, c'est du raisin qui est fermenté. Bon, le compost, c'est une vraie fermentation. Et si c'est pas bien fait, ben ça vire sur une mauvaise. Ils sentent mauvais, ils vont vers de l'hydromant. Enfin, ils deviennent comme du beurre, comme le vin irait au vinaigre. Donc on va travailler, mais ça c'est pareil. Chaque vigneron, en fonction du type de sol, on va lui dire vous mettez tant de compost, parce que si vous en mettez trop et que le sol n'est pas capable de l'absorber et de le complexer, en fait ça sert à rien. Donc en fait on fait une analyse et en fonction du type de l'analyse, on va lui dire bon, vous mettez 2 tonnes par hectare tous les ans, ou 3 tonnes, ou 4 tonnes. Et c'est le sol qui va dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. En fait, c'est le sol qui dit. C'est pas le viticulteur, c'est pas nous. C'est le sol qui dit, j'ai besoin de ça. Et en fonction de ça, on va l'écouter. Et on va travailler avec.
C'est quand même vous êtes un peu les traducteurs du sol, là.
Oui, mais c'est lui qui dicte, c'est pas nous qui dictons.
Ou les porte-voix. Vous êtes intéressé au BRF, les bois raméo fragmentés.
Bon, là, c'est pour les cas extrêmes, quand vous avez un sol qui est vraiment complètement mort, puisque nous mesurons dans le vignoble européen des sols où il n'y a même plus d'activité biologique mesurable au laboratoire. Hein, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien détecter.
Vraiment? Donc,
Ah oui, des sols qui sont totalement morts, complètement morts, avec des vignes qui sont couvertes de virose, de l'esca partout, c'est avec les pieds qui meurent, parce qu'on appelle les asphyxies. Vous avez des gens, ils ont tellement d'asphyxie, tellement de pieds qui meurent chaque année, qu'ils sont au-dessous de la densité de la OC, c'est-à-dire qu'ils se trouvent dans l'illégalité, tellement la vigne meurt. Donc, on est dans une situation extrême comme ça. Là, on va utiliser le bois raméal fragmenté.
Pourquoi est-ce que vous le gardez pour les cas extrêmes?
Parce qu'il coûte cher, il est quand même compliqué à épandre. Donc, c'est quand même pas simple. Hein, c'est un vrai travail. Il faut en mettre, quand un sol est vraiment à genoux, il faut quand même en mettre 400 mètres cubes hectare. Hein, donc, quand vous êtes entre les rangs des vignes, c'est pas commode à épandre. Donc, on va garder ça pour des situations.
On va rappeler peut-être le principe des BRF.
Donc, le principe du BRF.
Pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents.
Bon, il faut savoir que maintenant, il n'y a plus. Nous, on a encore appris règne animal, règne végétal. Hein, c'est fini, ça. Il y a 3 règnes. Il y a règne animal, règne végétal et règne des champignons. Les champignons sont les organismes les plus importants du monde, c'est eux qui fabriquent le sol, et en particulier ils fabriquent les humus. Ils sont les seuls à faire les humus. À l'opposé, les bactéries minéralisent et mangent la matière organique. Donc vous avez deux mondes un peu.
Vous avez le temps, Claude Bourguignon, vous avez le temps.
Vous avez donc un peu deux mondes antagonistes. Ouais. Les champignons qui fabriquent la molécule organique la plus complexe du monde, qui est l'humus. Et puis de l'autre côté, les bactéries qui la minéralisent et qui la mangent. Toute l'agronomie, depuis un siècle, est basée sur la minéralisation. Nous apportons des éléments minéraux, nous stimulons les bactéries, nous faisons disparaître la matière organique et nous mettons des fongicides et nous tuons au contraire les champignons qui, eux, fabriquent l'humus et fabriquent le sol. Donc, il se trouve que les champignons sont les seuls organismes qui sont capables d'attaquer la lignine. Et cette lignine, elle est surtout majoritaire dans les arbres et en partie les feuillus, pas les résineux. Donc, le feuillu, il va être une source de lignine que les champignons vont transformer en humus. Et il se trouve que pour accélérer le processus, la forme de lignine la plus rapidement utilisée par les champignons, ce sont les bois raméo fragmentés. C'est un nom qui a été donné par l'inventeur Gay, dont l'élève a été ensuite le mieux au Canada, qui a travaillé sur cette capacité extraordinaire qu'ont les champignons de vous remettre un seul en vie dès que vous leur donnez à manger du bois. Et les anciens, il ne faut pas l'oublier, avaient créé l'équilibre agro-silvo-pastoral. Ils avaient compris que l'arbre avait un rôle fondamental dans l'équilibre. Et nous avons arraché 3 millions de kilomètres de verre en France. On a arraché les haies partout dans le monde. Et nous n'avons plus de bois, nous n'avons plus de forêt. Et la forêt, c'est elle qui crée les sols. Donc déjà, il faut apprendre, quand le sol est trop mort, on travaille avec ces bois raméo fragmentés. On relance d'un seul coup la population de champignons. Mais il faut aussi que le vigneron arrête d'arroser de pesticides. Il faut qu'il se remette à travailler les sols. Donc on a maintenant des machines, des petits chenillards ou des machines très peu pesantes qui scannent très peu le sol.
Travailler les sols, ça veut dire labourer les sols?
Oui, parce que dans le cas de la vigne, c'est la seule plante où on fait travailler le sol. On fait au contraire arrêter le sol, le travail du sol en céréales. Mais la vigne, c'est une plante particulière. C'est une plante qui a 2 enracinements. Un enracinement superficiel qui se nourrit de la matière organique, un enracinement profond. Or, le terroir, il est en profondeur. Et les anciens ont tout de suite compris, il y a très très longtemps, qu'il fallait casser le petit réseau superficiel de la vigne pour qu'elle se nourrisse qu'avec le fond. Sinon, le vin devient plus quelconque. Et donc, il faut le travailler. Et pour ça, ben, on le travaille, mais maintenant, on n'est pas obligé de revenir au cheval. Bon, il y a des domaines qui reviennent au cheval, c'est le top. Mais bon, peut pas faire ça sur des grandes surfaces.
Mais ça, c'est extrêmement délicat, puisque je croyais que quand on labourait le sol, on attaquait la structure qui avait été mise en place par les vers de terre, la microfaune, etc.
Oui, mais dans la vigne, c'est pas un labour profond. Parce que là, vous parlez en agriculture, où en fait, le labour... autrefois, on faisait des labours qui étaient à 15-20 cm. On ne détruisait pas les sols comme maintenant. Maintenant, les machines, les tracteurs sont de plus en plus lourds, les socles de charrues de plus en plus profonds, et vous avez des labours à 40 cm. À 40 cm, vous n'êtes plus en surface, vous êtes déjà à l'intérieur du sol. Et chez les vignerons, on ne fait jamais... En fait, d'ailleurs, Claude a dit, on travaille le sol, on ne laboure pas. Donc, il n'y a qu'un moment où on le fait. Alors ça, c'est un peu particulier. C'était très utilisé autrefois. C'était pour protéger la vigne en hiver. On la butait. Donc, en fait, avec un socle, on remettait la terre, on chaussait le pied de vigne. Parce qu'en fait, c'était aussi pour protéger le pied contre le froid. Maintenant, on a moins d'hivers rigoureux, donc il n'y a pas forcément une nécessité. Donc, on dit buter, débuter. En Bourgogne, on dit cavaillonner, décavaillonner. Et avec le couteau, là, après, on retire la terre du pied. Mais autrement, c'est un petit travail, l'intercepte, pour couper les mauvaises herbes et couper ses racines superficielles. C'est à 10 cm, pas plus. Jamais on fait travailler une vigne au-delà.
Mais alors, je m'apprêtais à vous emmener sur des terrains plus joyeux, mais là, vous me faites penser, le changement climatique, est-ce que c'est un problème supplémentaire pour la vigne ?
Ah oui, c'est un vrai problème. On a deux...
Et le BRF sera certainement un moyen pour lutter contre les problèmes de réchauffement, parce qu'en fait, comme disait Claude, bon, les champignons, en plus, ils ont un énorme avantage. Ils ont des aquasporines et en fait, ils retiennent de l'eau. Donc, quand vous êtes sous du BRF, vous augmentez très très nettement la quantité d'eau. Donc quand il n'y a plus, le BRF, grâce aux champignons, on va garder une humidité sous le pied. Donc il n'est pas forcément question d'en mettre partout. Mais en fait, c'est une véritable réserve d'eau. À partir du moment où on a plus d'eau, on va avoir plus de faune, plus d'aération. Les racines vont donc descendre beaucoup plus en profondeur. Et en profondeur, bon, c'est vrai qu'il y a énormément de problèmes de sécheresse, mais quand la vigne est à plus d'un mètre, 1,50 m, vous comprenez très bien qu'elle est nettement moins sensible aux différences de climat.
Bien sûr. Mais vous alliez dire, Claude Bourguignon, qu'on a deux problèmes.
Oui, il y a quand même deux problèmes avec les réchauffements planétaires. Il y a d'une part une avance de la floraison, qui est un vrai problème, parce que le fait que la floraison s'avance fait que la vendange est de plus en plus précoce, en moyenne 15 jours maintenant sur la France. Or, vous savez que la qualité d'un grand vin, c'est un grand terroir, c'est quoi ? C'est une zone climatique où, justement, avant la vendange, au mois de septembre, vous avez des journées chaudes et des nuits fraîches. Et c'est ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle la maturité phénolique. Plus vous descendez vers le sud, plus les cépages sont tardifs, parce que par exemple à Montpellier, au mois de septembre, il fait encore très chaud la nuit. Donc on a des cépages qu'on va récolter en octobre, parce que c'est en octobre seulement qu'il fera frais. Mais à partir du moment où votre vendange s'avance, vous avez de plus en plus de risques de vendanger, par exemple au mois d'août, et on n'a pas une nuit fraîche, et ça nous fait des vins beaucoup plus lourds, déséquilibrés, qui n'ont pas une bonne maturité phénolique. Ça, c'est un vrai danger pour la qualité de nos vins.
Et on augmente la quantité d'alcool.
Parce
parce qu'en fait, comme on commence par la maturité, enfin le sucre, et la maturité phénolique vient après. Et en général, quand les raisins sont brûlés ou il fait trop chaud, en fait, ils n'ont pas eu le temps encore de faire cette maturité, et on va avoir des vins qui vont être beaucoup plus alcooleux qu'avant. Et le réchauffement influe énormément sur les degrés alcooliques à l'heure actuelle.
Mais alors, revenons à l'idéal. Revenons. Je sais, c'est une sorte de rêve, mais pourquoi pas ?
Si.
Revenons à une terre qui aurait été bien travaillée, qui serait vivante, qui serait... Je dis qui serait au conditionnel, mais vous allez peut-être me dire qu'il y en a, qu'il en existe quelques-unes, qui aurait des porte-greffes, les fameux petits moches du fond qui se sont mis à produire et à donner des très bonnes choses. Ensuite, il y a la vinification. Est-ce que vous intervenez là-dessus aussi ou pas?
Lydia est œnologue, moi je ne suis pas œnologue, mais Lydia, c'est son travail. Oui.
Non, moi je n'interviens pas.
Bon, alors on va peut-être commencer à écouter Lydia Bourguignon.
Non, moi je ne fais pas du vin. En fait, j'ai fait des études d'œnologie et de dégustation, parce que la plupart du temps, les gens critiquaient. Quand on travaillait sur le terroir, les gens disaient « mais ça ne compte en rien du tout ». Donc déjà, je voulais comprendre pourquoi. Et puis d'autre part, quand on avait des problèmes de sol, essayer de comprendre s'il y avait une relation. Quand, en fait, le vigneron se plaignait de certains problèmes dans sa vinification parce que soit il tenait pas ses pH, soit parce que ça n'allait pas. J'ai voulu essayer de voir si on pouvait peut-être avoir une relation quand il manque certains éléments, quand on a trop d'éléments. Si chaque fois qu'on a, par exemple, trop de potasse, et ça c'est sûr, en fait il y a des problèmes de pH dans le vin.
Donc, me dire, et la réponse est oui.
Et la réponse est oui, mais vraiment très nettement. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait des études d'œnologie, voir comment on faisait un vin. Mais je ne fais pas de vin. Et d'autre part, après, j'ai fait des cours pour comprendre une forme de dégustation qui était autrefois liée au terroir, pour essayer de voir si là aussi, c'était pas que, ce que enfin, une vue de l'esprit, si vraiment il y avait une relation entre le goût d'un vin et un terroir.
Parce que la dégustation aussi a changé.
Oui, complètement.
La dégustation a énormément changé parce qu'en fait, bon, on va revenir au chauvinisme bourguignon, mais le berceau du vin en France a été, bon, je reviens toujours à la Bourgogne, et en fait, très tôt, donc, on a eu des vins de qualité, et comme ces vins de qualité ont été recherchés par la cour, mais on n'avait pas des moyens de locomotion aussi rapides que maintenant. Donc en fait, Philippe Lebel s'est posé la question, comment faire pour être sûr qu'on ne nous trompe pas, qu'il y ait fraude. Donc ils ont institué une profession qui s'est appelée les gourmets. Les gourmets, piqueurs de vin, courtiers, gourmets et piqueurs de vin. Et ça a été fait, cette profession a été faite en 1312. Et la profession était en fait pour reconnaître le terroir. C'est-à-dire que ces gens-là, on leur apprenait, donc ils devaient se promener dans les régions, mais surtout la Bourgogne. En fait, c'est né en Bourgogne au démarrage. Et en fait, on leur apprenait le terroir. C'est-à-dire qu'il fallait, et il y a eu des procès extrêmement graves, et c'était eux qui donnaient le prix du vin. C'était eux qui faisaient, comme maintenant, bon, par cœur ou certaines choses, mais eux faisaient ça. Et en fait, ils arrivaient à déguster par certains tests et de dire, monsieur, je vous garantis, c'est un Latache. C'est pas une Romanée Conti ou une Romanée Saint-Vivant, c'est un Latache parce que je retrouve ça, et ça, c'est le terroir de Latache. Et ces gens-là, ces gourmets, pouvaient trouver si ça avait été coupé avec des cépages blancs. Donc en fait, c'était une étude extrêmement approfondie qui a complètement disparu parce qu'en fait, elle n'a pas pu être quantifiée. C'était la qualité et on n'a pas pu quantifier. Donc Monsieur Chauvet, a fait ce qu'on appelle la dégustation sensorielle et on a pu classer, mettre des notes, la couleur de 1 à 4 et tout. Et en fait, c'est l'Institut, c'est l'INAO qui a créé cette grille. Après, par cœur, tout le monde part des notes sur 100. Mais en fait, c'est devenu là et on a classé, on a pu noter et ce qui fait qu'un vin a eu une note. Et à l'heure actuelle, quand vous avez un vin qui a 92, il est vendu, mais s'il a 88, il n'est plus vendu. L'explication entre 88 et 92, quand on sait comment sont faites les dégustations, c'est dramatique pour le vin. Donc la dégustation a changé aussi. Elle est quantitative, elle n'est pas qualitative.
Elle n'est plus qualitative, d'autant qu'il n'y a plus véritablement de terroir.
Ben, on n'arrive même plus à les reconnaître. Vous avez des dégustations, ils n'arrivent plus à reconnaître les terroirs de Bourgogne en goûtant les vins, ce qui est quand même dramatique.
Mais alors, quand même, pour terminer sur une note plus gaie, un vin qui aurait été travaillé comme il faut sur une terre belle, vivante, etc. Je reviens. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Qu'est-ce qu'il a de si particulier par rapport au vin qu'on connaît habituellement et qu'on note jusqu'à 92?
Un vin... Déjà, il faudra déjà regarder sa robe. En général, un vin, quand les robes étaient particulières. En plus, quand vous allez le déguster, normalement, il devra avoir une attaque souple. Il ne devrait pas du tout vous arracher. Il va avoir cette impression de gencive qui vous tire. C'est un petit peu plus tard. Si vous avez la qualité de vos tanins, vont vous donner peut-être une légère astringence. Mais un vin ne doit jamais vous agresser, hein. Il doit toujours arriver en souplesse dans la bouche. Il va vous donner une sensation après, bon, bien sûr, de plaisir, mais un grand vin va vous donner une impression comme une salive extrêmement onctueuse qui va arriver en bouche, parce que ça va être la qualité de vos tanins. Vous allez avoir aussi la persistance, donc c'est tous ces arômes qui vont... Et puis après, bon là, je parle comme cette dégustation des gourmets, après, on va avoir cette rétro-olfaction et on pourra parler des arômes, de tout cela. Mais normalement, un vin, quand on le goûte, c'est un vrai... En plus, c'est souvent, comme c'est lié à... les arômes ou ce qu'on va ressentir, ça, pour beaucoup de gens, ça va leur rappeler soit une odeur, soit une sensation de leur enfance. Donc un vin, c'est un vrai voyage. Quand le vin est bon, c'est un vrai voyage, en fait. On accompagne et ben voilà, c'est ça un grand vin.
Le vin est une mémoire comme les sols ont une mémoire.
Voilà.
Non, et ce qui est aussi... comme avec Lydia, on va sans arrêt du sol au vin, puisqu'on travaille avec les vignerons. C'est assez extraordinaire de goûter chez un même vigneron. Il faut faire ça chez le même vigneron, sinon c'est pas aussi parlant. Mais vous goûtez chez le même vigneron un vin qui le même cépage venant d'un terroir sableux et d'un terroir argileux, bah vous sentez le sable dans votre bouche et vous sentez l'argile dans votre bouche. Ouais. C'est-à-dire qu'un vin, ça se tâte. Les gens ne le savent plus, ça, mais taste vin, ça veut dire qu'il faut tâter le vin avec sa langue et contre son palais et dans sa bouche. Les gens, ils sont là uniquement à renifler. On n'est pas des machines à renifler, on n'est pas des chiens. C'est un produit culturel, le vin. C'est un produit qui se tâte. Et c'est extraordinaire. Nous, avec Lydia, avec à force de l'habitude, on dit, tiens, ça, c'est bien. Ce côté très caractéristique, très salin des terrains, par exemple, du Crétacé, ou ça, au contraire, ce côté ardoisé des terrains du Jurassique. Ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, quand le vin est bien fait, quand il n'a pas été bourré de produits chimiques et qu'il est sur un sol vivant, il a une identité. Et c'est ça qui est passionnant, parce que justement, il n'y a pas de vin pareil. À partir du moment où ils viennent de deux parcelles différentes, il ne sera pas pareil, même s'il est fait par le même vigneron, dans la même cave, avec le même cépage. Et c'est ça qui est passionnant. Comme dit Lydia, c'est un vrai voyage.
Et justement, on va terminer sur vos voyages. Vous voyagez maintenant autour de la Terre. Vous avez trouvé des vins intéressants ailleurs ?
Oui, on a, pour nous, certainement, on n'a pas fait toutes les régions mondiales du vin, mais il y a une région un pays qui nous a énormément étonnés, c'est la Nouvelle-Zélande. On y est allé cette année. Et c'est vrai que bon, l'hémisphère sud, mais au niveau de la latitude, on est très, très proche de la France, puisque c'est à peu près pareil. C'est un climat qui est tempéré. Et en fait, ce sont des sols. On a retrouvé des sols que l'on a rencontrés en France, de type arc alpin ou certains graves. Et je pense que les vignerons, la Nouvelle-Zélande, c'est pour nous certainement l'endroit où on pourra vraiment faire des grands vins. Parce qu'en fait, il ne fait pas trop chaud, il y a de la pluie, les sols sont intéressants, ne sont pas trop profonds. Donc en fait, pour nous, c'est un grand coin.
Et ils sont vivants.
Non. La Nouvelle-Zélande, c'est 20 litres c'est 20 litres de glyphosate à l'hectare sur la vigne. Moi
qui comptais sur votre oui pour faire une jolie fin de l'émission.
Non, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a de très beaux terroirs. Si ailleurs, vous voulez. C'est-à-dire que pour le moment, bon, ils mettent ce qu'ils appellent les cépages sexy. D'accord, les cépages de Bordeaux. Mais s'ils arrêtaient, s'ils mettaient des vrais cépages, ils feraient des très beaux vins.
Eh bien, la suite à la prochaine fois, Claude et Lydia Bourguignon. Merci beaucoup. Mais là, pour aujourd'hui, on est un peu obligé d'arrêter. Les auditeurs pourront télécharger cette émission pendant une semaine, réécouter les émissions des deux mois précédents, consulter notre revue de web hebdomadaire et même écouter le débat qui ne manquera pas d'être animé et qui va commencer d'ici deux minutes ici au Phytobar. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Chenepin, Anne Gouzon, prise de son au Phytobar Isabelle Limousin, Pascal Baudin, réalisation Olivier Bétard, et je vous souhaite une très bonne semaine.